Police Q, épisode spécial, je suis copain de Michael.
Bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Je vais bien, toi?
Très bien aussi. Out of nowhere, on va prendre un sujet super sharp qui finalement, étonnamment, nous se concorde bien dans ce cas-ci. Les défendeurs réfléchissent en lice, les attaquants réfléchissent en graphe, et tant que ça va durer, les attaquants vont toujours gagner. John Lambert, 2017 Microsoft. C'est une réflexion qui est très importante. Moi, j'ai été exposé à celle-ci quand j'étais au Blue Team Con. Comme j'avais dit sur LinkedIn, c'est en somme toute une assez vieille phrase. Mais clairement, en 2017, je n'écoutais pas, je n'ai jamais vu passer. Il a fallu attendre en 2023 pour l'avoir passé la première fois. Ou que j'ai été attentif, ça a dit quelque chose pour moi. Puis celle-là, moi, elle a résonné très, très fort, cette phrase-là. Puis c'est justement sur ça qu'on va parler, discuter sur ce sujet-là, parce que c'est un des problèmes majeurs qu'on a en cyber, ces deux clans-là de réflexion qui font qu'on n'est pas capable de réconcilier un et l'autre, et ce qui fait que effectivement les équipes bleues sont toujours perdantes parce que ils réfléchissent dans une façon linéaire qui n'a rien n'est comme les attaquants, qui pour moi c'est dans le voir comme en graphe, c'est-à-dire c'est comme de l'eau. L'eau va trouver n'importe quel petit trou pour rentrer et aller où elle a besoin d'être. Fait qu'on n'est pas dans le même contexte de réflexion, on n'est pas dans la même philosophie, la même approche, on est absolument dans rien. Et c'est là un des problèmes majeurs pour moi. Puis ça m'a comme fessé. Je l'avais écrit sur LinkedIn le 28 ou 29 août que ça m'avait frappé. Puis coïncidence, tu me sors la même chose. Puis, quand il y a une concordance d'idées par rapport à cet élément-là qui, pour moi, est fondamental, puis explique pourquoi un peu notre milieu est brisé, si on veut.
Effectivement. Puis, même de mon côté, je trouve ça assez ironique que ce soit le sujet de la semaine. C'est un sujet que j'ai l'impression que depuis les dernières semaines, on dirait qu'on me ramène ça, puis que je suis comme. De plus en plus, je prépare les talks pour les prochaines conférences de sécurité qui s'en viennent. Et justement, je pensais à ma vision côté perspective de compagnie, justement, qui, on peut dire, on offre le Blue Team as a service, quasiment dans un sens, de voir comment qu'on applique ça, justement, pour bien présenter la problématique, en fait, d'où est-ce qu'elle est, la problématique. Parce que la plupart des entreprises, en fait, c'est pas vraiment du Blue Team as a service qui devrait acheter de plus en plus, mais c'est plus comme la vision globale qui vient avec. Parce que de plus en plus, on se rend compte que tu peux aller sur Google Cloud, tu peux aller sur Amazon, tu peux aller un peu partout, tu peux acheter des éléments de sécurité, tu peux avoir ton rack dans un centre de données qui vont te fournir d'autres pièces, de d'autres trucs, de d'autres fournisseurs qui ont tous des, justement, comme on dit, la phrase, elle dit quand même bien, parce que chaque outil vient avec sa liste préfaite, vient avec son équipe qui va la gérer. Qu'eux autres, c'est con, mais c'est un petit peu une question de business dans un sens qui amène le problème, c'est que c'est comme un KPI, c'est une clé de performance en voulant dire, il y a quelqu'un qui est en charge de checker si toi t'es correct. Fait que toi t'es correct, la liste compile, mais dans la réalité, on s'entend, la sécurité, ça va beaucoup plus loin que ça, là. S'il y a une alerte à la porte d'entrée, mettons, au load balancer qui voit quelque chose de passer, qu'il y a des risques qui connectent avec un autre élément qui va aller voir un IPS qui va faire ou un IDS qui va lui dire « Attends un peu, je pense qu'il y a un risque, mais que là, il y en a un qui a trigger quelque chose, l'autre il dit « Toi, t'es good », puis là, ça prend la décision. Il y a 50% de risque. La requête passe. Problème vient d'arriver parce que les deux sont pas sur la même longueur d'onde. C'est probablement deux produits de deux brands différents, deux équipes complètement différentes qui doivent gérer la chose. Et des fois, c'est même une configuration de l'infrastructure. Donc là, il y a plusieurs équipes en jeu qui sont même pas au courant de pourquoi que c'est arrivé. Puis le jour qu'il se passe quelque chose, c'est comme « Ah, c'est arrivé d'où? Ça vient de quoi? C'est à faute à qui? »
Ouais, c'est un peu sans ça. Puis tu sais, on a fait un épisode sur la conformité. Puis ça a du bon, la conformité. Parce que ça l'assure un minimum. Ça l'assure des choses que normalement, on n'aurait pas capable ou on pourrait échapper tout ça. Parce que si je me regarde, moi, parce que je réfléchis clairement en graphe ou comme de l'eau. Je réfléchis clairement en graphe. C'est sûr que je vais oublier des choses parce que la réflexion en graphe, n'est pas ne permet pas d'être très très précise ou de garantir que j'échapperai pas quelque chose au passage. Cependant, l'avantage que ça a, c'est que je vais toucher tellement de choses en même temps que c'est sûr que je vais ramasser tout ce qui est important. Puis c'est intéressant de l'aborder comme ça. Puis je me lie de gens qui sont beaucoup plus listes, justement pour compenser mon côté pas liste, qui justement, ça permet justement de combiner les deux pour arriver à un résultat. Puis ce qui fait que tu es capable de coordonner des équipes, quand tu parles de choses comme ça, coordonner des équipes. J'ai fait du IR. En IR, quand tu coordonnes des équipes de IR, parce que tu n'es jamais tout seul, parce que c'est pas juste le cyber qui le fait, il y a l'infra, il y a le code ici. Mais quand on coordonne ces différentes équipes-là, nécessairement, si tu réfléchis en liste, tu n'y arriveras juste pas. Faut que tu réfléchisses nécessairement en graphe pour être capable de rejoindre l'ensemble de ces équipes-là d'un coup. Puis, une autre chose que je trouve intéressante dans ce que tu as dit, chaque produit, effectivement, est une liste. Cependant, les concepteurs de ces produits-là réfléchissent en graphe. Si j'en ai un concepteur de produit, j'en connais d'autres qui travaillent dans ces choses-là. À chaque fois que je leur parle, on parle tous en graphe. Mais puis ils sortent un produit. Puis le produit est intéressant. Puis c'est ça qui est charme, c'est que ces produits-là, si on l'aborde en graphe, il va nous fournir une réflexion graphe. Il va être capable de nous amener là. Tu sais, tous les produits, les bons IDR, les WAF comme le vôtre, ces éléments-là, s'ils sont capables d'être correctement manipulés, ben, t'es capable de réfléchir en graphe avec. Puis un peu la base de votre produit, c'est du AI qui fondamentalement, ça réfléchit en graphe du AI. Fait qu'on est dans un contexte où les liens se font, mais d'une façon non standard, non prévisible.
Exact. Puis c'est drôle parce que je vais peut-être ajouter un petit peu un grain de sel là-dessus. De plus en plus, je poussais le moulinet un peu plus loin pour essayer de bien expliquer ça, bien visualiser ça dans des slides, bien essayer d'apporter le sujet. Puis je me suis rendu compte de quelque chose. Ça m'a frappé de plein fouet parce que dernièrement, justement, j'ai eu à gérer des nouveaux clients qui m'ont amené des nouveaux challenges puis des nouvelles perspectives, des nouvelles visions de comment je pourrais régler certaines problématiques. Puis la première chose que je me suis rendu compte, le point qui fait le point entre toutes les problématiques que j'ai eues depuis qu'on existe, c'est la même. C'est tout le temps le côté, le sable dans l'engrenage, il vient d'où? Il vient de ce que je contrôle pas. Bien souvent, ce que je contrôle pas. Je contrôle pas l'hébergement du client. Je contrôle pas la stack technologique du client. Je contrôle pas. Puis c'est là que je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis dit, si je contrôle, tu sais, une bonne portion de l'élément de sécurité qu'on s'entend, ça inclut le DNS, le WAF et tous les trucs autour, le périmétrage, je me suis dit, je devrais pouvoir justement, comme tu le disais, penser en graphe et avoir du fun à pouvoir régler probablement toutes les problématiques. Jusqu'à temps que je frappe le mur de ce que je contrôle pas. Puis là, qu'est-ce qu'on contrôle pas, c'est de se rendre compte que là, ben, t'as un petit peu là, l'infrastructure du client. Des fois, c'est même pas le client lui-même qui gère, ça peut être un third party, d'un autre third party qui connecte avec l'équipe du client, qui est là, ça s'enchaîne tout, là, parce que là, l'application n'a pas été développée par le client, a été développée par un third party, il a été hébergé par un autre third party, puis là, c'est le client qui essaie de manager par-dessus, puis là, ben, on vient insérer une solution en graphe par-dessus, mais en dessous, là, ça ne passe pas en graphe du tout, ça pense en, si ça pense en liste, on a déjà gagné. Dans bien des cas. Puis c'est ça que je trouve assez hilarant. C'est que je me suis rendu compte que c'est plus juste une question de cybersécurité, c'est plus juste une question d'infrastructure de défense. C'est une question que c'est comme il faut que toute l'infrastructure derrière suive l'idéologie d'où est-ce que ça s'en va, parce que sinon tu te ramasses avec un hosting que dans le pire des cas, il y a un IDS mal configuré ou il y a même un pare-feu tout simplement de base qui vient avec Linux. Shout out à UFW qui va être mal configuré comme ça se peut pas, qui va voir un petit peu trop de trafic, puis tu te ramasses avec des clients qui se font couper la ligne en voulant dire tu visites le site web d'un client ou son application, puis tout simplement tu te fais kick out parce que le pare-feu a juste décidé qu'il comprend pas pourquoi soudainement il y a trop de trafic qui venait d'un endroit, mais comme c'est juste mal paramétré parce que tu sais c'est un offset d'une petite liste derrière une petite application de sécurité de base. Mais si on va pas plus loin, juste ça, si on extrapole, là, tu rajoutes un pare-feu, tu rajoutes des éléments par-dessus, tu viens de casser la liste des gens partant, là, parce que là, la liste, elle se met pas à jour avec toute l'intelligence de ce qu'il y a autour. Et l'équipe derrière, qui a même des fois, dans bien des cas, aucune idée comment gérer cette liste-là ou que cette liste-là existe sur leur serveur en premier lieu. quand tu cognes à la porte, puis là, faut que tu cours après le third party du third party pour savoir qui a configuré quoi, puis comment que ça a été fait, puis pourquoi ça a été fait. Puis qui gère ça? Puis là, la réponse, c'est personne, c'est entre deux chaises.
Ouais, dans le meilleur des cas, oui.
Puis c'est là qu'on se ramasse avec du sable dans l'engrenage, parce que ça fait qu'il y a quelqu'un qui est pas content en bout de piste. Puis c'est oui. Pas facile à gérer. Puis c'est le même problème dans beaucoup d'entreprises. Puis j'ai eu la chance de m'entretenir justement avec des très grandes entreprises dernièrement qui me confirmaient qu'il y a le même problème à tous les niveaux. C'est pas un problème qui est... je dirais que c'est quasiment un problème qui est systémique. Parce que tout le monde...
Ça va avec l'augmentation de complexité des systèmes. Et il y a peu de gens qui sont capables de comprendre la complexité des systèmes et de voir la simplicité qui se cache en arrière de la complexité. Et en plus, tu as des chasses gardées, puis tu as un paquet d'éléments comme ça qui vient multiplier le problème parce que là, tu comprends pas ce qui se passe d'un bord, mais là, il veut pas dire la vraie affaire. Puis là, tout est bloqué, puis ci, puis ça. Je veux dire, tu l'as sûrement rencontré plus qu'une fois, ce genre de choses-là.
Effectivement, puis c'est drôle parce que je m'en allais parler du concept des kingpins. Tu sais, comment qu'aujourd'hui, ouais. Tout le monde se proclame expert de ce que tu voudras, puis que toutes les plus belles entreprises que j'ai rencontrées ont toutes un kingpin d'infrastructure, un kingpin de la sécurité, un kingpin de ci, un kingpin de ça. Minute que tu y parles de graphe, je pense que... la serviette est pas loin, ou c'est comme... C'est drôle, la personne tombe sur la défensive parce que là... t'as peu là. Ça veut-tu dire qu'il va falloir que je change comment j'opère, comment que je me tourne les pouces ou comment je me plante les deux doigts dans le nez le vendredi après-midi? Ben, c'est à peu près ça. Là. C'est comme tu viens marcher sur le terrain de quelqu'un qui utilise des tools de programmation depuis des années, qui a une certaine croyance derrière ces outils-là, qui est dans sa zone de confort. Là. Don't get me wrong, la personne fait probablement une super job, mais malheureusement, tu arrives sur le terrain que c'est comme là, faut que tu y expliques que. Sa petite liste, ça va pas bien loin. Elle a probablement même pas conscience de tout ce qui se passe autour. Que le trois quarts du reste de son trafic vient même pas des clients, il vient d'Amazon ou il vient de Google Cloud qui essaie de justement de les pentester. Tu sais, puis c'est tous ces trucs-là que tu essaies de faire comprendre ça. Puis tu sais, des fois, c'est ça que je trouve un petit peu ironique, c'est que tu frappes ces murs-là qui sont. Je considère normal, ça fait partie de l'équilibre d'une entreprise. Dans toutes les entreprises, il y a tout le temps des segments de l'entreprise qui sont un peu comme ça, qui veulent pas trop bouger, qui sont un peu rigides. Ben c'est la même chose, sauf que là, on parle de sécurité, puis c'est quand...
Ouais, c'est ça, c'est plus important, puis c'est un autre réflexion. Puis dans la même chose, un des énormes problèmes que j'ai, c'est d'expliquer c'est quoi ma job. Parce que j'ai jamais été capable de vraiment expliquer parce que tout se fait comme semi-intuitif, puis je suis juste comme j'essaie d'expliquer aux gens ce que je fais, puis finalement ils sont tout perdus parce que je suis pas capable de leur descendre dans une forme qui est compréhensible autre que pour moi. Pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est juste parce que la façon que l'image de ça est fichée dans ma tête se traduit mal dans des mots de façon justement linéaire ou en liste. Qui est facilement transmettable à quelqu'un d'autre. Fait que là, j'essaie d'expliquer. Tu sais, c'est comme quand je fais du threat hunting. Tout le monde, oui, mais comment tu fais? Ben, je sais pas, je regarde quelque chose, puis ça me donne une intuition, puis je suis mon chemin, puis d'un coup, pouf, je trouve quelque chose qui n'était pas supposé être là, puis il est là, mais est-ce comment je suis arrivé là? Je suis pas capable de te l'expliquer. Sorry, tu sais, c'est comme. C'est très difficile, c'est ça.
C'est de l'expertise pure de rendu là, c'est que tu peux pas expliquer tout ça en mots. Là. C'est de l'expérience.
Mais c'est difficile parce que, tu sais, si je réfléchis à la liste, puis en même temps, tu sais, chez beaucoup de mes clients, je leur suggérais de faire des listes justement parce que quand on parle de conformité, au moins ça t'assure un minimum conforme. Mais en même temps, faut que tu dépasses ces listes-là pour aller plus loin que juste le minimum conforme parce que justement, faut être beaucoup, faut capable de se faire de la vraie cyberdéfense. Il faut aller plus loin parce que si on n'est pas capable d'aller, on arrête à nos listes, ben les attaquants, ils vont juste changer de modèle d'attaque puis ils vont pivoter puis on est foutu. Puis on le voit déjà, puis là, ça commence à s'accélérer le pivotage parce que là, les attaquants, ils pivotaient pas vite parce qu'on bougeait pas vite. Fait que, tu sais, c'était les mêmes stratégies de défense. Fait que d'autres, ils utilisaient les mêmes stratégies d'attaque pour passer à côté de nos stratégies de défense. Fait que, tu sais, tant qu'on n'a pas bougé, eux autres, ils sont restés dans la même stratégie. Tu sais, c'est loi du moindre effort, en fait. T'sais, ils veulent pas forcer. Fait que si on fait juste comme si c'était sur nos listes, ben, ils finissent par les connaître, nos listes. Fait que là, ils attaquent toujours à côté, puis là, on comprend pas pourquoi. On est toujours en train, toujours mal foutu. Oui, mais on les a patchés nos systèmes, mais oui, mais telle affaire, mais oui, mais c'est pas juste ça, c'est complexe. C'est comme toute la notion de kill chain. La kill chain, c'est l'accumulation de vulnérabilités mineures qui vont donner une vulnérabilité majeure. Mais là, on fait juste patcher les majeures. Fait que les mineurs restent toutes là. Fait que ça, c'est une réflexion typiquement à liste. Ben là, on va juste descendre la liste. Puis quand on a le temps, on le fera les mineurs. Tu réfléchis en graphe, tu cumules deux, trois affaires, tu mets ça dans un sac, tu brasses, puis tu as un résultat qui est autre.
C'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que tu as dit un mot magique à travers tout ça. Tu parlais un petit peu de la conformité, puis d'avoir une liste de checklist pour dire, bon, ben on a fait le strict minimum. Puis moi, c'est un petit peu ça que justement que j'ai commencé à bâtir un talk autour. C'est l'idée que ça sert à quoi la liste de checklists si on se rend compte qu'en bout de piste, ah ben, t'as checké pour les je vais donner un exemple bien stupide. T'as checké qu'on patch contre tous les derniers exploits à jour, les derniers zero day. Check. Qui est cool, t'as validé ça comment? C'est qui est en charge de ça? Parce que justement, je vais donner un exemple dans mon passé aux États-Unis. J'ai travaillé sur un projet il y a longtemps qui était assez, ça pouvait sembler bien banal. C'était tout simplement un algorithme avec un automatisme dans le cloud qui allait chercher toutes les sources de Threat Intel à tous les jours, à minuit. J'avais fetché les nouveaux Zero Day qui étaient publiés avec leurs derniers exploits, qu'est-ce qui avait été validé ou pas. Puis j'avais un système automatiquement qui allait télécharger ça, mettre ça dans une base de données, le documenter automatiquement avec en allant chercher les bons tags et tout. Puis que, après ça, ça chipait ça à mon équipe derrière, que eux regardaient justement pour les informations de voir l'exploit, c'est quoi. Est-ce qu'elle affecte nos clients ou est-ce qu'elle affecte notre infrastructure? Puis est-ce que cet exploit-là, ben c'est malheureux, ben souvent, il y a un exploit qui a été trouvé. Ah bon, mais cet exploit-là s'exploite pas juste de la manière qui est expliquée dans le POC, là. Elle s'exploite de 10, 20, 30, 40 manières différentes. Le meilleur exemple qui vient en tête, c'est Log4j, qu'en dedans de 24 heures, j'ai reçu quelque chose comme plusieurs centaines de milliers de différents vecteurs pour bloquer Log4j, justement. Là, il fallait savoir vraiment comment contrer la chose, parce que rendu là, on se bat quasiment contre un langage de programmation. C'est carrément une chaîne de caractères Java qui te permet d'exécuter du code. Donc, il faut que tu anticipes tout ce qui est possible. Fait que c'est juste pour donner un exemple que à chaque fois qu'on coche, c'est fait. Moi, dans ma tête, ça me semble un peu comme le contexte de ce que je disais tantôt. Ça me semble comme un KPI de quelqu'un qui est comme, OK, c'est fait. Mais est-ce que c'est vraiment fait? Puis de plus en plus, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand on travaille de très proche, justement, avec des équipes de CISO, tu vois directement qu'ils veulent de plus en plus avoir des métriques qualifiées. Ils veulent pas juste savoir, c'est fait. Parce que, c'est fait, ben, c'est cool, c'est fait. Mais ça ne ça te donne pas vraiment de résultats ou de statistiques concrètes sur non. Qu'est-ce qui a été fait. Parce que dans les faits, il n'y a rien qui a été fait.
En cyber, jamais qu'il n'y a rien qui est fini. La roue du hamster est finie. Fait, je veux dire, tu ne peux pas jamais être patché. Tu ne peux jamais te débarrasser de tes 0D. Tu ne peux jamais au complet parce que c'est à recommencer à tous les mois, c'est à recommencer à tout bout de champ parce qu'il y a toujours de nouvelles vulnérabilités, il y a toujours de nouvelles affaires qui se passent, il y a toujours de nouvelles façons d'exploiter des vulnérabilités, il y a toujours de nouvelles façons d'y aller. C'est-à-dire, on regarde les nouvelles façons, puis encore en même temps, Living of the Lands, c'est même plus les méthodes les plus sophistiquées, c'est déjà vieux. Puis si on le voit, on le voit passer. C'est-à-dire, il y a des affaires, je l'ai vu, encore là, j'ai sorti dans tout de ma roche. Depuis 2017-2018, Evil Jinx, qui permet d'intercepter les jetons d'authentification de M305, ben c'est clé en main. Depuis, genre, ça fait longtemps, là, ça fait 6 ans. J'ai vraiment dormi sur une roche, celle-là. C'est vraiment pas pire. Puis, tu sais, c'est comme ça. Puis, on a juste refait des affaires parce qu'ils ont imaginé comme ça. Puis, le uptake, il date juste de 2022. Fait que, tu sais, il y en a plein d'autres outils comme ça, bizarres, pas classiques, qui sont largement sous-exploités, qui attendent juste que les défenseurs changent leur checklist, rajoutent. Ouais, là, faut bloquer les Evil Jinx. Il va y en avoir un autre qui va apparaître parce que il y en a plein. Le cesspool, là, il il est infini. Là. Tu, quand tu, moi, vraiment, tu commences à greuser, tu vas au DEFCON, tu vas dans des endroits comme ça, là, tu commences à voir. Puis c'est là que j'aime ça parce que je m'alimente, puis là, ça grossit mon graphe. j'ai un très grand graphe de choses. Ce qui fait que ma réflexion est incohérente pour bien des gens parce que je ne descends pas linéaire. Fait que là, je pars sur une chose, puis tu sais, bref, mon chemin dans ma tête s'en va partout.
Effectivement. Puis c'est ça l'idée de penser en graphe dans tous tes cas. Puis un des meilleurs exemples que j'ai pris il n'y a pas très longtemps pour expliquer le cas, c'était juste le cas de l'intelligence IP. Tu sais, quand on pense à ça, là, de tout ce qui est géo-IP, de savoir ça vient d'où? Ça vient-tu d'une business? Ça vient-tu d'un réseau de télécom? Ça vient-tu... Toute l'information, documenter une adresse IP, d'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient-tu du dark web? Elle vient-tu d'un VPN? Elle vient-tu... Tout ça. Qui est... Dans toutes les cas, là, puis je te donne un exemple bien stupide parce que c'est un cas qui m'a affecté personnellement dernièrement. Quand tu penses à ça, là, même si tu as une liste, exemple, qui vient de quelque part, comment tu fais pour truster cette liste-là? Comment tu fais pour faire des actions en fonction de ce qu'on te dit? Est-ce que tu crois à ce qu'on te dit sur une liste ou tu faut que tu compares entre plusieurs listes? Puis c'est là que ça devient un chaos mental incroyable. Parce que en réalité, qui a raison? C'est-tu la liste 1? C'est-tu la liste 2? Puis là, quand tu as plusieurs sortes d'intelligence différentes, puis tu essaies de... C'est là qu'on se ramasse que juste pour gérer de l'adressage IP, juste pour être cohérent dans ce qu'on veut faire en termes de thread hunting, on peut aller très profond, puis il n'y a pas de limite comme à l'expertise, là, comment on peut la creuser, puis comment que comme... C'est drôle, mais c'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler dans les entreprises. Hein,
non. Puis en tout cas, puis c'est... Quand tu peux vraiment puis reprendre des termes de cyber, pour ça, c'est comme on a... tes listes, c'est tous des signaux. Et comment tu fais pour donner de la valeur à ton signal ou à une liste de signaux? Et comment tu le pondères par rapport aux autres? Mécaniquement, c'est très difficile à faire parce qu'on va le faire dans un format liste et non dans un format graphe. Mais si je dépose ces informations-là ou j'enrichis mes informations avec des informations du threat intel, et moi, comme analyste, je vais les regarder, puis je vais sous-peser automatiquement, puis je vais faire ça, puis je vais me mettre en contexte par rapport au réseau dans lequel je suis, par rapport à l'équipement, par rapport à l'heure de la journée. Et tout ça, moi, je vais le faire tout seul. Je vais le faire spontanément, parce que, bon, c'est la façon que je réfléchis m'amène vers ça. Le AI a réussi à faire à peu près le même genre de choses, parce que lui, ça s'entraîne sur un très grand volume de données, puis à un moment donné, bien, il est capable d'arriver au même niveau de déduction. Il sait pas pourquoi, par exemple, c'est ça qui est drôle du AI. Le AI, c'est con, mais c'est utile parce qu'il sait pas pourquoi il le fait, pourquoi le résultat sort, mais le résultat est là. Fait que c'est utile. C'est utile pour nous, on s'en sort comme ça. Mais évidemment, c'est fait que cette capacité-là, fait que comment tu veux, puis c'est ça que tu l'as amené dans ta système quand tu étais dans ta compagnie aux États-Unis. T'as toutes ces informations-là. Comment tu leur donnes une cote de confiance? Sur quoi tu te bases pour te fier à ça? Est-ce que tu... Puis là, on est encore de plus en plus dans un monde où les attaques de chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus importantes. Comment tu peux te fier que ton fournisseur ne s'est pas fait attaquer en amont, que lui-même t'injecte de la cochonnerie? C'est plus exclu dans la réflexion. Là. Ça, c'est du graphe. Parce que les attaquants, ils vont pivoter sur des choses comme ça. On regarde, au moment où on enregistre, Microsoft a rendu public toute toute l'attaque avec MSA. Il l'a expliqué. Et la conjoncture des événements qui a mené à la fuite de la clé, là, c'est fou, là. Fait que, tu sais, pour arriver à avoir tout cumulé ces choses-là, ça veut dire qu'il y a eu une erreur dans le dump. Le dump a mis la clé dans le debug. C'est une chose. Et qu'en même temps, dans les mêmes temps, il y a un ingénieur qui s'est fait compromettre son compte et l'attaquant a, pour une raison, réussi à trouver qu'il y avait une clé cachée dans un dump. Quand, tu sais, je veux dire, il reçoit des milliers de dumps de mémoire, des choses comme ça. Puis, tu sais, que dans un, une clé. Tu sais, il a pas fait un grep et chercher ça. Là. Il a dû avoir quelque chose qui s'est passé. Je vais lancer un grep pour voir si une clé dans les dons.
C'est encore drôle. Je connais des hackers qui fonctionnent beaucoup en grep, malheureusement.
Oui, non, mais faire un grep ou un regret, ça, mais tu sais, ouais. D'arriver à dire, hey, je vais faire un grep sur ça. Pourquoi ça? C'est pourquoi il n'a pas cherché des mots de passe, quelque chose de plus classique, là, si tu veux, là, quelque chose de plus, plus conventionnel. Fait que, toute la chaîne d'attaque démontre à quel point l'attaquant est imaginatif, qu'il réfléchit clairement en graphe. Fait que ça l'a amené à ce genre de choses-là. Puis ça, clairement, ben là, Microsoft malheureusement a échoué dans ce cas-ci parce qu'ils ont réfléchi en liste.
Effectivement, puis il y a tellement d'autres trucs chez Microsoft que je pourrais dire comment ils fonctionnent en liste que je trouve ça ridicule. Et puis je pourrais même reprendre tout côté Charles Hamilton, justement, qui a fait une présentation de Red Team il n'y a pas si longtemps. Ils ont fait un beau webinaire, puis ils expliquaient comment ils utilisaient justement des CDN de Microsoft pour distribuer ses attaques parce qu'ils sont pas flagués comme étant malicieux. Ça appartient à Microsoft! Fait que t'es déjà sur leur terrain, tu bypasses tout le périmètre au complet, voilà. Personne qui va penser ou à bloquer un CDN de Microsoft, ça fait aucun sens, voyons. C'est une autorité. Puis c'est la même chose dans mon domaine. Je fais beaucoup de recherches personnelles sur tous les exploits de bas niveau. Puis de plus en plus, je me rends compte que c'est tellement ridicule. Il y a des exploits là, qui passent par le kernel. Des fois, tu t'attends même pas à ça. C'est carrément des logiciels qui sont signés par Microsoft comme une autorité que tu peux tout simplement. Il y a un exploit qui est dans l'application, mais que vu que l'application est signée, te permet d'injecter dans le kernel comme si tu étais Dieu de ce beau monde, puis il sera jamais scanné, il sera jamais analysé, la vie est belle, puis on vit dans un écosystème qui est rien que de ça, là, si on regarde là, vraiment tout ce qui se fait sur le marché. C'est un petit peu pourquoi ma réflexion du début, quand je disais tous les logiciels qu'on a accès à acheter, qui viennent de des vendeurs différents, des fois même du même vendeur. C'est malheureux. T'as acheté leur WAF, t'as acheté leur pare-feu, t'as acheté le ci, t'as acheté le ça. Cool, mais ces composantes-là, ils se parlent même pas entre eux. Ils ont chacun leur petite liste, leur petite intelligence bidon, si on peut dire, qui sortent des belles métriques. Mais malheureusement, ça va pas plus loin parce qu'il y en a un qui pense qu'il est l'autorité de lui-même, l'autre qui est l'autorité de lui-même, puis qu'il voit même pas la relation entre les deux. Et juste là, je trouve que c'est un petit peu là qu'il y a beaucoup de place à l'innovation. Puis c'est exactement pourquoi que la discussion de l'intelligence artificielle pourrait être très longue, si tu vois ce que je veux dire, de toutes les choses qu'on se rend pas compte, qu'on laisse passer ou que même trois quarts des entreprises, je fais affaire avec Microsoft ou je fais affaire avec ci, je fais affaire avec ça. Dans la réalité, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est là que comme ça pourrait être un long débat de savoir, OK, ben cool, tu fais affaire avec Microsoft, mais c'est quoi que tu as mis d'autre ou c'est quoi qui... Comment que tout est arrangé? C'est là que le sable dans l'engrenage ou comme tu disais si bien tantôt, fait couler un peu d'eau par-dessus, voir. Ça va sortir. Je pense
que ça va où sont les trous, mais c'est en plein ça. C'est un peu aussi, en tout cas, moi dans mon cas, en réaction par rapport à tout le qu'ils appellent en anglais le silver bullet, là, c'est de trouver la solution qui va tout régler. Ben non, ça n'existera pas. Puis de cette raison, parce qu'on on fait face à des structures avec des attaquants qui évoluent, qui changent, qui pivotent et qui réfléchissent en graphe. Là, tu sais, on peut pas avoir une solution magique qui va régler tout. Ça se peut pas. La seule solution magique quand tu as ton ordinateur dans ton jardin, c'est prendre la seule chose qui va arriver que tu vas réussir à te prémunir contre une attaque. C'est à peu près tout. Tu sais, là, on parle d'utilité de la machine. Très sérieusement, c'est pourquoi faire une machine si on l'entend dans le jardin? Mais ce qui fait qu'on doit réfléchir les choses différemment et qu'on peut pas juste espérer que ça soit magique. Tu sais, c'est comme les analogies en santé publique ou militaire sont de cette nature-là aussi. Tu peux pas le réfléchir. T'sais, on l'a vu avec la COVID. Les scientifiques ont pataugé un bon bout de temps avant de réussir à trouver le filon puis à trouver comment les éléments. Fait que, c'est plein de gens qui ont réfléchi en liste, plein de gens qui ont réfléchi en graphe, puis ils ont tout mis ça ensemble puis ils ont réussi à trouver avec du temps. Mais quand tu le réfléchis en liste, tu peux pas. À part, faut que tu fasses ton protocole puis te garantir que. Mais au-delà de ça, pour gérer la crise sanitaire comme elle était faite ou l'infection, faut que tu le réfléchisses en graphe parce que là, d'ailleurs, c'est un des problèmes. On n'a pas fermé les frontières assez vite ou on n'a pas mis des mesures comme le masque assez vite. Fait que là, le virus s'est propagé en graphe, là. Il fait fou. Bonjour, je suis partout. Maintenant, vous êtes pris. Tout le exact. Monde est pris ensemble avec le même, dans le même bateau. Fait que ça s'est propagé comme ça. Il n'y a pas de magie, c'est pas un complot, c'est juste la façon que ça s'est propagé, parce qu'il s'est propagé en graphe, parce que c'est un attaquant.
Exact. Puis encore, pour illustrer tout ça, j'ai une petite anecdote qui est... C'est drôle parce que dernièrement, j'ai dépoussiéré ma bibliothèque de livres de hacking. Puis j'ai décidé de réouvrir un de mes livres préférés qui est ma Bible que j'utilise pour tout ce qui est de bon niveau. Puis il y avait une anecdote de quelque chose que j'ai tombé dedans. Puis je suis tombé en bas de ma chaise quand je l'ai lu. Puis j'ai fait, c'est tellement vrai, là. C'était l'équivalent... Je te fais un résumé... peut-être qu'il va être plus générique pour tout le monde, c'est l'équivalent de dire j'ai un antivirus sur mon système qui est préloadé avec des signatures statiques. Puis, ben écoute, je suis en train de te chatter sur un système, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un jeu, que ce soit whatever, et je t'envoie, à place de t'envoyer du texte, je t'envoie une lignée de bytes qui contient la signature, fait que ton propre antivirus flag ta propre machine et tu le process et flag ta propre machine comme étant un problème. Parce que t'es la source de contamination. Tu comprends? Parce que justement, t'as été infecté par quelque chose qui a été signé derrière une liste qui est totalement statique, que personne ne peut pas voir venir. Mais c'est la stupidité qui montre jusqu'à où une liste peut aller. Tu peux te promener sur un chat, bombarder tout le monde, et tout le monde qui a cet antivirus-là, tu vas les voir pouf, déconnectés.
Ah oui?
C'est aussi stupide que ça.
Oui.
C'est la même chose à plus grosse échelle si tu mets ça dans une entreprise.
Oui, mais c'est tout le problème des antivirus. Ça réfléchit en liste depuis longtemps. Le premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais un antivirus qu'on peut qualifier comme ça, qui utilisait de l'intelligence artificielle, c'est Silence. Il n'utilisait aucune liste, mais lui, il utilisait du biais vieux. Il était entraîné. Puis sur ça, ben, il a fonctionné comme ça. Mais c'est sa méthode. Fait que basé sur l'entraînement de son AI, justement, qui réfléchit en graphe, il était capable d'attraper probablement 99%. Pas tout. Il était capable de contourner, là. Il n'était pas parfait. Mais il attrapait quand même la vaste majorité, ce que les antivirus classiques avaient de la misère à attraper. Parce que lui, il se basait sur des comportements.
Exact.
Quand il voyait les comportements, ben, il se trompait rarement. Jusqu'à temps que les comportements changent, ça c'est une autre histoire, mais puis qu'ils ont un peu arrêté d'investir dans la recherche qui est associée à ce moteur-là, fait que maintenant il est moins, depuis plusieurs années, il est beaucoup moins intéressant qu'il l'a déjà été, mais quand on remonte fin des années 2010, il était sharp parce que les attaquants n'étaient pas encore guéris pour se défendre contre ce genre de choses-là. Il était encore très prévisible à l'époque. T'as pas besoin de liste, t'avais juste besoin de la prévisibilité.
Exact.
Que l'AI apportait.
Exactement, puis c'est exactement le pourquoi qu'on existe aujourd'hui. Hooray! Parce que c'est justement, c'est la réflexion nous pousse dans cette direction-là de plus en plus, puisqu'on essaie de faire évoluer le côté de la défense, puisque j'aime pas utiliser le terme blue team, purple team, red team. Tant qu'à moi, c'est un tout. Là, il faut que tu penses un petit peu en red team, il faut que tu penses en blue team, puis comme il faut que tu fasses aussi l'entre-deux si tu veux arriver à quelque chose dans la vie. Là, c'est plus juste d'être unidimensionnel, selon moi. Si tu veux vraiment penser en graphe, il faut justement penser à tous les à côté de qu'est-ce qui peut arriver si je suis dans l'erreur ou si je suis correct. Et c'est ce qui nous permet justement d'en arriver finalement avec des meilleures métriques. Puis c'est un petit peu là, moi, que je pense en tout cas qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que je serais curieux de voir vraiment, là, quand on regarde vraiment les entreprises, tu sais, à très haut niveau, là, quand on parle d'une très grande entreprise, comment que tu peux vraiment présenter quelque chose à la fin du mois de comment t'as géré tes incidents, comment t'as géré tout ce qui s'est passé, parce que comme il y a tout ce qu'on voit pas passer justement qui reste encore à être résolu. Que comme moi je pense qu'en tout cas on a pour encore des années que ça soit encore un sujet d'actualité ou comme autant que toi que moi qu'on est dans deux perspectives totalement différentes, on va continuer à voir justement du monde se gourder ou nous présenter des belles problématiques justement à régler parce que justement la perspective de liste malheureusement on dirait que c'est un défaut de fabrication, pas juste au niveau des produits, mais aussi les êtres humains qui aiment beaucoup trop s'asseoir sur une liste puis être dans leur zone de confort finalement, parce que c'est bien plus facile de regarder la petite liste de checklist ou avec le petit outil, faire une ligne de commande en bash pour dire bon, mais fais donc une validation, est-ce que j'ai des packages à updater parce qu'ils sont dangereux? Cool, sont tous updatés, est-ce que ça prouve que tu es plus en sécurité? C'est un peu là la question.
Juste que tes systèmes ont été updatés. Ouais, c'est un peu ça, là, de... Ça, puis c'est rassurant, là, puis je le sais. Puis de toute façon, je le conseille généralement comme les premières étapes de monter en maturité en cyber, c'est de faire des listes. Justement, pour que tu couvres tes bases. Puis c'est correct aussi. Puis c'est là où, quand j'ai été confronté à la phrase, à la citation, là, ça a buzzé dans ma tête parce que, en même temps, tu sais, d'un côté, je dis à mes clients, faites des listes de contrôle, c'est nécessaire, c'est bon, ça mène plus loin. De toute façon, on a déjà parlé de la conformité ensemble aussi. Puis l'autre côté, j'ai ça, j'ai la réflexion, ouais, mais faut que tu penses en grand, faut ça en même temps. Mais tu peux pas, à mon sens, faut que tu commences à apprendre à marcher, donc faire des listes, avant de commencer à réfléchir en graphe, donc de courir. Fait que tu peux pas, faut que tu fasses un avant d'aller l'autre. Il y a des personnes qui sont typiquement beaucoup plus habiles et plus confortables avec des listes. Puis la même chose pour des graphes. Il y a des gens qui sont plus habiles et confortables avec des graphes. Puis c'est pas une personne meilleure que l'autre, mais c'est comme ça aussi que l'humain, les cerveaux humains constituent. Fait que de là, ben, ça, tu mets tes gens de liste pour structurer ta base, puis ensuite tu prends tes éléments à graphes, puis tu les rassois par-dessus pour tirer plein de bénéfices de ça. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire du sens avec cet élément de dissonance, parce que c'est d'un coup, ça m'a comme frappé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'aide mes clients à aller plus loin? Comment je réussis à faire un sens de ça? Parce que tu sais, réfléchir juste en graphes, tu peux pas juste faire ça non plus. Parce que moi, je suis pas orienté vers les détails, par exemple, parce que ma réflexion est en graphe. Ma réflexion va être très répandue, va être très large, va couvrir très grand, mais pas très dans le détail. Fait qu'en même temps, il faut essayer de trouver une façon de combiner ça, puis c'est là où c'est là, comme un brain fart.
Ben effectivement, parce que le détail, c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est que ça prend un écosystème assez incroyable. Avec une équipe, ben pas juste une équipe, ça prend plusieurs équipes pour chacun des petits points dans ton graphe qui est très étendu, quand toi tu le présentes, pour venir collaborer les data qu'eux vont avoir analysés, qui va collaborer à la fin que là, tu es capable d'avoir vraiment ce qu'on appelle un rapport complet de ce qui se passe dans tes opérations. Puis c'est ça qui est pas facile à avoir. Puis même, ça me rappelle un petit peu le pourquoi de éthique, dans le sens, nous, quand on a lancé notre produit de WAF. La première optique qu'on a eue, justement, ça a été de créer des listes. Pourquoi? Parce que, comme tu disais, c'est là que le monde sont le plus confortable. C'est comme un peu la première étape que pour eux, nous, on leur fait une liste de ce qui est à régler dans un sens. Puis une fois qu'il est réglé, ben au moins, ce côté-là humain, on dirait que c'est facile. La checklist, même si c'est un petit peu dynamique derrière ou que le graphe est là, ben au moins, tu écartes comme le besoin de devoir aller faire le suivi sur toute la ligne. Parce que faire le suivi sur toute la ligne, ça prend un effort surhumain. C'est quasiment les épreuves d'Hercule, si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est comme... Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais malheureusement, qui ont le galon ou même les ressources nécessaires pour faire ça. Puis c'est ce qui fait que c'est autant un défi aujourd'hui, justement, de comme...
Ouais, puis qui laisse la place à ces gens-là aussi de s'exprimer, parce que c'est pour moi, de mon expérience, puis là, genre, je suis capable d'en parler maintenant parce que je donne un vocabulaire pour l'expliquer. Puis en plus, là, d'avoir été confronté à cet élément-là, pour moi, c'est un éteignoir d'être dans une entreprise qui ne permet pas à tout le monde, là, on s'entend, parce que c'est juste du monde qui répond en grâce, tu auras un problème. Mais au moins, tu sais, si tu es capable d'exprimer ça, puis de laisser prospérer dans ta compagnie, puis d'en tirer bénéfice. Mais c'est ça, c'est dans ces places-là, moi, j'ai quitté assez rapidement parce que je me sentais pas dans ma zone. Mais maintenant, je suis capable de le nommer. Là, t'sais, avant, t'sais, il y a 20, 25 ans, j'avais pas la maturité pour l'exprimer comme ça. Là, j'étais juste fâché puis je m'en allais. Mais maintenant, j'ai la maison pour l'expliquer. Là, comment les choses se déroulent.
Tu peux juste référencer ce podcast-là. Prochaine fois, ça sera aller écouter ça, vous allez comprendre comment je file.
Ouais, vous allez comprendre pourquoi je suis parti fâché il y a 20-25 ans. Fait que c'est comme ça. Parce que j'ai appris à me connaître. Puis ça, je veux dire, quand t'es dans la jeune vingtaine, t'es fou. Puis tu réfléchis pas ce genre de choses-là. Mais bref, ça c'était ma jeune vingtaine où j'étais un peu... plus fou. Mais avec le temps, c'est ça. Là, j'ai appris à m'en servir, j'ai appris à l'utiliser parce que c'est pas juste un feu follet comme c'était quand j'étais plus jeune aussi, d'ailleurs. Cette réflexion plus en graphe et comment l'utiliser. Puis quand j'ai commencé à essayer de faire du sens, récemment avec tout ça, comment l'accéder, puis comment mes clients pourraient en sortir. J'ai pris l'exemple quand je fais du gère des incidents, quand je fais du VR, puis je coordonne les différentes équipes, puis je coordonne les affaires, que je vois les choses, puis ça, c'est là où j'ai vu, où j'étais capable d'atterrir le fait que moi, je réfléchis en graphe, mais je suis accompagné de gens qui réfléchissent en liste. Et là, les deux se servent, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent en liste vont faire les choses avec une excellence que je ne ferais, je serais jamais capable de faire moi-même. Mais c'est
exactement
eux,
pourquoi je parlais de Kingpin tantôt.
Oui, mais eux, mais là, ça dépasse parce que là, il faut être l'humilité. Ça, c'est l'autre côté. C'est que ces gens-là qui réfléchissent en liste, vous soyez capable de collaborer avec quelqu'un qui réfléchit en graphe, qui ne se sente pas attaqué. Parce que là, ils se sentent, ils peuvent être sensibles. Tu l'as dit clairement, là, ces Kingpins-là, des fois, ils vont avoir des gatekeepers qui vont empêcher de faire avancer les choses parce qu'ils protègent leur terrain, parce qu'ils se sentent menacés, parce que ça, la réalité, moi, j'ai zéro intérêt à ça parce que je suis pas je réfléchis pas en liste. Fait que moi, son terrain, il m'intéresse pas parce que je réfléchis pas comme ça. Et du moment que ces gens-là vont comprendre plus facilement que les gens qui réfléchissent en graphe, ils en veulent pas de leur terrain parce que ça les intéresse pas. Ben là, cette collaboration-là est capable de s'enclencher parce que puis j'en ai connu, heureusement, dans ma carrière, des gens qui se sentaient pas menacés par l'espèce d'affaire feu follet que je peux avoir là des fois. Mais justement, qui voyaient le bénéfice qui en sortait après parce que je les ai mis en valeur aussi. Puis c'est après ça, parce que tu sais, eux ont géré la crise. Moi, j'ai juste coordonné les efforts de tout le monde pour qu'on arrive tous à la ligne d'arrivée ensemble. Mais j'ai pas aucun mérite individuel. C'est pas moi qui ai arrangé, c'est pas moi qui ai installé telle affaire, c'est pas moi qui ai corrigé telle affaire, c'est pas moi qui a éteint le problème. Moi, j'ai rien fait de ça. Là. J'ai aucun mérite de cette nature-là. Mais j'ai permis de parler, coordonner, m'assurer, toutes les choses faisaient du sens et rattacher les choses comme ça. Ça, c'est un exemple d'usage de graphe en défensif. Et que je vois pas souvent, malheureusement.
Exact. Puis bien souvent, c'est une question de gestion. Et comme tu disais, là, ceux qui sont là comme pour faire du gatekeeping un petit peu, plus tu es capable d'avoir une place pour travailler dans un sens ou avoir un esprit de management qui pense déjà comme ça dans un sens, plus que c'est facile après ça d'arriver dans le décor puis de dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, bougez-moi ci, bougez-moi ça. Tu sais, de prendre un petit peu le contrôle de la situation et de régler le problème, mais le problème, c'est que c'est rarement le cas. C'est rarement déjà en place. Puis c'est un petit peu le pourquoi, puis comme je disais tantôt, pour revenir un petit peu au talk que je disais que je préparais, c'est exactement pour exprimer à quel point c'est important, je pense, de plus en plus de développer cette expertise-là. Parce que j'ai un feeling que tout le monde, tu sais, qui sort avec des grosses certifications de sécurité, de plus en plus, puis c'est mon expérience dans le passé, là, je te montre comment utiliser le tour qui passe en liste. Puis tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme engrainé dans l'apprentissage de sécurité de plus en plus. Puis j'en remarque avec les CV que je reçois, puis le monde que je rencontre, on dirait qu'ils ont appris à opérer d'une certaine manière X. Puis c'est ça qui fait que des fois aussi qu'ils n'aident pas la cause, c'est qu'il y a comme un besoin de renouveau, on dirait, ou de l'expertise, de la pousser plus loin. Puis j'ai eu un beau débat dernièrement sur le fait d'être un vrai rechercheur ou peu importe le title, ce qu'il veut dire. Puis c'est exactement là que ça mène. C'est que quand tu fais de la recherche, tu t'arrêtes pas justement à ce qui est dans ta liste. Tu veux soit la grossir ou tu veux collaborer avec plusieurs listes pour voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre a fait, pourquoi il le fait. Puis c'est juste là que ça ouvre les portes justement à aller plus loin. Puis ça amène mon point justement sur le pourquoi qu'on existe, c'est de créer cette expertise-là. Puis je trouve tellement que c'est cool de le faire au Québec parce qu'on dirait qu'il y a une belle ouverture d'esprit, c'est drôle à dire, là, il y a une belle aura sur la cybersécurité au Québec en général à ce niveau-là. On a beaucoup de monde qui sont super allumés, puis c'est facile, on dirait, de faire avancer les choses. Quand que je me retourne, je fais sorte virer de bord puis aller voir aux États-Unis mon expérience, comment qui était statique avec beaucoup de gatekeepers. Chaque petite personne dans son îlot fait ses petits trucs, puis on se parle à la fin du quarter s'il y a quelque chose, s'il y a un incident. Mais sinon, tu sais, c'est un petit peu, on dirait que c'est comme ça dans beaucoup trop d'organisations, c'est trop statique, à place de laisser la place justement que les choses évoluent.
Ouais, ben c'est des choses, c'est comme tu disais, des choses de gestion qui nous amènent. Si tu as une bonne équipe de gestion qui viennent justement capables de mettre en lumière les gens qui pensent en graphe, puis mettre en lumière les gens qui pensent en liste, puis les mettre à contribution pour arriver un peu comme je mentionnais dans un cas de IR, Mais dans ce cas-ci, ça a été possible parce que la gestion a permis cet élément-là d'apparaître. Donc, incidemment, les deux types de réflexions ont pu briller chacun de leur côté avec leur capacité individuelle. Fait qu'il n'y en a pas un qui était meilleur que l'autre. Tout le monde a servi à la grande cause, un, de sortir de l'incident, et deux, toutes les gens individuels ont pu briller de leur excellence dans leur zone à eux autres sans que personne vienne leur voler les choses aussi. Puis c'est un peu ça aussi qui doit être fait, que la gestion doit aussi mettre de l'avant, que tout le monde contribue, puis tout le monde doit être remercié de cette contribution-là aussi. Puis c'est toutes des affaires qui sont, disons, moi j'appelle ça plus la gestion moderne, c'est moins hiérarchisé qu'on pourrait voir, parce que de toute façon, quand tu réfléchis en greffe, t'es typiquement pas hiérarchique, là. De toute façon, parce que t'es juste comme t'es spreadé partout, là. T'es comme un octopus, t'es comme une pieuvre.
Effectivement, ça ressemble pas mal à ça.
Tu touches à plein de choses, puis tu fais de la recherche, puis c'est la même chose. T'as deux types de chercheurs, t'as des chercheurs en liste, t'as des chercheurs en graphe. Et ceux qui ont fait des découvertes intéressantes, c'est souvent des chercheurs en graphe, parce qu'ils ont mélangé deux, trois domaines ensemble, puis d'un coup, pouf, sont arrivés avec une idée d'innovation qui a vraiment propulsé en avant. Les chercheurs en liste vont amener des améliorations techniques qui vont nous faire avancer, mais pas nous propulser d'un bond par en avant, parce qu'il faut cette espèce d'imagination hors de ce monde de réussir à combiner plusieurs champs scientifiques ensemble, puis pouf, arriver à un résultat qui est au bout, là. Puis en cyber, c'est la même chose. Si on n'est pas capable de combiner les deux, tant qu'à moi, on est condamné à répéter les mêmes affaires pendant encore des années. Puis j'espère qu'on va arrêter de répéter les mêmes affaires pendant des années, là.
Effectivement. Puis ce qui me vient en tête à propos de répéter les mêmes affaires, c'est un peu ce qui m'a inspiré, en fait. Tu sais, quand j'ai pris le chemin de vouloir créer un produit en graphe, justement, là, j'avais regardé un documentaire de Google, justement, qui expliquait un petit peu les tentacules de cette pieuvre, qu'est-ce que ça a l'air pour une organisation comme Google. Puis ils en ont fait un documentaire, justement, qui est disponible sur YouTube, qui est très, très intéressant, je le recommande. C'est une petite série de quelques épisodes, de quelques heures. Puis ça raconte la plus grosse incident qui a jamais été vu chez Google, la plus grosse infection qu'on s'entend, là, c'était l'équipe de sécurité qui passe dans tous les bureaux, qui déploie les ordi, puis qui les amène dans la War Room, puis qui est comme en mode OK, la fin du monde vient d'arriver, là, il faut qu'on trouve une solution, là. Ouais. Pour se rendre compte qu'ils ont développé une stratégie qui était hallucinante, puis qui collabore un petit peu le mix d'un peu de ce que tu expliques, ta vision, comment que, elle devient tellement large à quelque part que c'est comme ça prend du monde pour faire bouger les tentacules. Puis ils montraient un schéma de comment de rechercheurs pallier avec des gars de sécurité, que ce soit Red Team, Blue Team. Chaque département a 50-50 de rechercheurs pallier avec les gars de Red Team et de Blue Team. Puis que pour ce nombre de personnes-là, il y a le double de personnes au-dessus que c'est des data scientists qui analysent les données que ces deux groupes-là ensemble réussissent à prendre. Pour après ça, à chaque, si on peut dire, intersection de la tentacule, venir créer une autre équipe au-dessus que eux vont prendre le data puis commencer à l'analyser ensemble pour, encore une fois, avoir une équipe de data scientists qui fait que plus que tu remontes vers le haut, plus que ta précision en termes de rapport, de données, de qu'est-ce qui se passe, tes opérations, de l'intelligence est rendue où, on est-tu on top ou on est under, d'être capable d'être le plus précis possible. Puis c'est un petit peu la philosophie, en fait, qui nous a poussé, en fait, à créer un produit en graphe, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend vraiment des segments précis, puis une organisation qui est prête à suivre le bouillon ensemble. Si tu veux pas que ça coule de partout, ben il faut être capable de vraiment pallier au gérer vraiment l'intelligence qu'on génère. Puis c'est drôle à dire parce que n'importe quelle organisation se rend même pas compte de tout. Quand je regarde, j'ai certains clients des fois qui ont plusieurs millions de logs par mois. C'est comme des fois dans ces logs-là, il y a des mines d'or que tu passes. Au gars, tu passes ça à l'analyste, ah, il va spotter quelques attaques venant du cloud, il va être heureux, il va comme call today, là, j'ai fait ma job, j'ai spoté des attaques, j'ai décelé peut-être qu'il n'y a pas eu d'incident ou il y en a eu une. Tu sais, c'est comme toujours un vrai ou faux, mais quand tu passes ça, comme qu'on disait tantôt à l'intelligence, ben c'est là que tu te rends compte, oups, ça t'a un peu... il s'est passé des choses qui viennent de des sources que ça reste juste comme Ah, ben là, ta liste, ça n'a pas flagué, justement, comme qu'on disait tantôt. Ouais, ça vient de chez Amazon. Ouais, ça n'a pas été flagué. Ben, ça vient de chez Amazon. Tu comprends? Puis c'est un petit peu là que la réaction ou la réflexion va beaucoup plus loin. Parce que c'est là qu'on se rend compte que des fois, on n'a peut-être même pas l'intelligence à côté de l'autre liste, de l'autre gang à côté. Exemple, qui analyserait, comme je disais tantôt, toute l'intelligence IP, tout le threat intel qui est attaché à une IP. Des fois, on n'est même pas au courant. C'est juste de se poser la question, est-ce que ça fait du sens que ça vienne d'Amazon? C'est juste là, ça porte assez pour dire, ben écoute, il y a un problème ici. Puis c'est tous ces trucs-là que même un humain peut se faire avoir s'il pense un petit peu trop de façon linéaire. Ben, on se ramasse dans le même problème.
Oui, absolument. Là. Puis c'est un sérieux problème, justement. Tu parles de whitelist, entre autres, c'est justement des listes. Tout ça est un problème. Tu veux dire, Feu Mitnick, c'était un peu ça, la façon qu'il avait réussi à attaquer les systèmes. Il avait tout contourné des whitelists un peu partout, puis il avait réussi à rentrer de façon là, superbe dans plein de systèmes. Puis ça face à date, les gens étaient « Ah non, mais ça se peut pas, mais tout se peut. » Tout se peut. Fait que là, ces gens-là qui réfléchissent en graphe, justement, lui a été capable de voir toutes les affaires étranges, puis que là, lui a vu cette vulnérabilité-là. Lui, c'était évident en plus. C'était clair, c'est comme il y avait des flashs, des néons qui disaient « je suis vulnérable ». Lui, il s'est amusé là-dedans. Malheureusement, il s'est fait pogner. Mais, bref, légalement, c'était très discutable ce qu'il a fait. Mais c'est l'expression de la curiosité dans un univers qui était, à cette époque-là, qui était persuadé que tout le monde réfléchissait en liste, tout le monde allait droit, puis toutes ces affaires-là. Puis même, en conception de système aussi, c'est un peu ça aussi, c'est les gens, non, mais ils le feront pas, mais pourquoi ils le feraient pas? C'est l'école limite, ah non, mais c'est pas grave, c'est l'école limite. Oui, mais c'est justement là où les gens vont s'amuser, c'est l'école limite. C'est moi, les cas classiques, ça m'intéresse pas, je ne sais pas des use cases, des standards, il n'y a rien, le fun n'est pas là, le fun est toujours dans l'école limite. Parce que l'école limite, c'est toujours les places où les gens qui font des listes n'ont pas vu ou n'ont pas jugé pertinent d'intervenir et de faire des choses. Fait que c'est là où le fun pogne, puis quand tu commences à attaquer des systèmes, puis comment tu défais la logique d'affaires, puis comment tu défais des champs, tu sais, toutes tes affaires d'injection SQL, c'est un exemple de ça, c'est des listes. On contournait les affaires, mais pourquoi l'utilisateur enverrait une requête comme ça? Parce que c'est drôle!
Exactement! Puis ben, dans certains cas, c'est même pas parce que c'est drôle, c'est une question d'ego.
Ah, oh, aussi, là, il y a une partie du milieu de la cyber qui est animée par l'ego, là. C'est sûr. Il y a ça aussi qui amène les gens à se dépasser et à réfléchir sur d'autres choses. Mais c'est toute la réflexion non conventionnelle. Tu réfléchis comme le système n'était jamais prévu. C'est un peu toute la culture maker aussi qui est un peu comme ça, de reprendre des objets puis les retransformer en leur faire d'autres choses. Ben, c'est ça, c'est de hacker le matériel dans ce cas-ci. Puis de donner d'autres fonctions. Mais nous, on fait la même chose avec du logiciel. Fait qu'on bidouille, puis on fait d'autres choses avec. Tu sais, c'est comme comment agencer des API ensemble, comment agencer des systèmes ensemble pour obtenir ce que tu veux, mais qui n'a jamais été prévu comme ça. Jamais.
Exact.
Fait que les attaquants, c'est comme ça aussi. Mais il faut juste faut ces gens-là qui réfléchissent en greffe, les mettre dans les bons camps. Là. Qu'on arrête de se défendre contre eux autres. Mais tu sais, ça n'arrêtera pas non plus. Tu sais, c'est là aussi arrive que les gens se font pogner parce qu'ils réfléchissent trop en lice. Là. Ils se font avoir.
Effectivement, ou que dans un certain d'autres cas, ils réfléchissent peut-être pas trop en lice, mais ça peut être la conformité qui est manquante ou que bref, l'encadrement qui est pas là. Puis c'est toujours quelque chose que justement, on a oublié de faire ou qui manquait justement peut-être à la liste qui fait qu'on passe tout droit puis on oublie quelque chose d'important. Puis c'est ce qui est le plus drôle, c'est que de plus en plus, on s'en va, puis je pense qu'on en a parlé il y a plusieurs épisodes déjà, pas de la conformité, mais tu sais, tout ce qui s'en vient au niveau de comment tout est de plus en plus automatisé puis de plus en plus encadré dans le sens que si tu veux être conforme, si tu veux être ci, tu veux être ça, ton périmètre de jeu, si on peut dire, pour un attaquant, est de plus en plus petit si on fait vraiment tout ce qui est à faire sur la checklist. Aïe, 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 là, t'as plus beaucoup de scope pour pouvoir attaquer une interface ou une infrastructure.
Effectivement.
Il devrait ouais,
même... ça aussi, ben ça, c'est la démonstration que les listes aussi sont utiles. Puis c'est là aussi, tu sais, c'est là, moi, c'est facile, je chasse sur les checklists, hein, mais de l'autre côté, c'est, y a tout ce volet-là utile. Puis c'est l'exemple que j'ai, puis qu'on m'a relaté, c'est le SOC de Google. Essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent la première moitié de la journée à répondre aux incidents, aux tickets qui sont ouverts. Et la deuxième moitié de la journée, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent la réponse de ce qu'ils ont fait le matin. Fait que ce ticket-là, sous cette forme-là, ne reviendra jamais parce qu'il a été mécanisé. La réponse à ce problème-là a été mécanisée. Fait qu'il va toujours arriver d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est sûr que la fenêtre d'opportunité de l'attaquant est en train de se réduire parce que même s'il réfléchit en graphe, ces gens-là qui sont assidus à ce genre de choses-là, ce genre de travail-là, mais tranquillement, ils ferment de plus en plus. Fait que même s'il y a de l'eau, bien, ils mettent du scellant de plus en plus sur en plus de surface. C'est de plus en plus difficile de trouver cette faille-là dans les systèmes parce qu'ils sont de plus en plus couverts, sont de plus en plus montés de façon à ce que c'est très, très difficile. De plus en plus difficile d'arriver à ça, là, aussi.
C'est ce qui fait que l'écho des attaquants est de plus en plus gros aussi.
Aussi.
Parce qu'on entend que les bug bounty à coups de millions, on en voit de plus en plus, comme que je me rappelle qu'il y a quelques années, ça n'existait même pas. Puis que là, aujourd'hui, on dirait que c'est quasiment une norme, surtout quand on regarde dans le côté de la blockchain, comment c'est intense, comment ça explose de partout. Les bounty, là, c'est dans toutes les directions, puis c'est justement, ça fait grossir l'ego. Fait que le scellant, il est mieux d'être efficace, comme on dit, ou on est mieux de rien oublier sur la liste, parce que c'est là que ça passe au cash, dans un sens, là, t'sais. Des fois, ça n'a pas de prix. Est-ce que l'attaquant va découvrir? Ou comme tu le disais tantôt avec la dump qui n'était pas supposée, mais qui avait une clé dedans, ben c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les outils d'attaquant... avant, en tout cas, je me rappelle encore de l'époque, il y a quelques années, on va dire, là, que tout se faisait en greppe. Puis qu'aujourd'hui, ben c'est probablement pas mal plus automatisé que ça. Puis que oui. Probablement, tu pognes un dump. Ils ont des outils déjà préfaits qui checkent pour des mots de passe, des clés, des ci, des ça. Tout y passe. Je suis pas mal sûr de façon très automatisée parce qu'on est capable de le faire du côté de la défense. Fait que pourquoi pas du côté de l'attaque? T'sais, ça fait juste du gros bon sens pour moi. Puis on s'entend que plus qu'on dépense d'argent pour se défendre, plus qu'il y en a qui dépensent pour attaquer. Donc ça fait un beau cercle vicieux.
Nécessairement, tant qu'il va y avoir des choses à voler, puis ça va coûter moins cher faire l'effort de voler que le rendement de revente ou de l'argent qui est volé, c'est sûr que ça va exister, là. C'est toujours de rendre, c'est un peu le principe du système de dissuasion, c'est-à-dire au sens où ça coûte plus cher voler ce que tu veux voler. Fait que de ce moment-là, c'est pas rentable, donc les attaquants s'en vont ailleurs, s'en vont dans des endroits qui sont plus rentables pour eux autres. Fait que c'est dans ce contexte complètement-là, puis cette industrialisation-là, elle est juste malade, là, parce que je vois pas là, quand ça va se terminer non plus. Là.
C'est drôle, ça me rappelle un talk des services secrets que j'avais regardé à DEF CON il y a quelques années. Puis le gars, il venait montrer comment eux ont développé un algorithme pour encrypter des processus. En fait, de prendre un exécutable puis de l'encrypter de façon que ça devienne... Comme qu'il disait, il n'y a aucune façon humainement possible de rendre ça blindé, bulletproof ou peu importe. Le reverse engineering va toujours avoir sa place. C'est une question de comment tu peux faire que ça va leur coûter tellement cher, prendre tellement de temps qu'ils vont être découragés, justement. C'était la clé de la solution. Mais c'est juste parce que plus qu'on met de scellant, dans ma tête à moi, on vient pas décourager le monde, on vient leur mettre une valeur de plus, il y a une prime sur le target parce que on s'entend dans quel but qu'on fait ça. On fait ça pour protéger les données des clients, les données de crédit, de plus en plus, c'est des données personnelles qu'on veut protéger parce que c'est ça qui a une valeur sur le marché. À la seconde, oui, qu'on met ça derrière.
C'est quoi? C'est le CEO de Mandiant que j'avais entendu il y a deux semaines qui disait que exactement, ça veut dire que 80-90% des attaques ne sont faites que pour voler du cred. Là. Fait qu'ils sont juste là pour aller chercher des identités parce que c'est ça, à l'heure actuelle, le marché. En même temps, les creds valent pas cher parce qu'ils sont faciles à voler. Du moment qu'on a des bons systèmes en place qui vont être difficiles à voler, le prix va monter. Si le prix monte, ça va devenir de plus en plus intéressant d'investir l'argent et le temps pour réussir à passer à travers les moyens de sécurité. Fait, c'est comme c'est si vous avez fait vos cours d'économie au secondaire, l'offre et la demande. Fait que s'il n'y a pas beaucoup d'identité disponible sur le marché, les prix vont monter. On va aller comme ça. Puis c'est pour ça que les bug bounty des affaires plus compliquées sont des montants très élevés. Ben, c'est plutôt rare qu'on va en trouver. Puis si on en trouve, ben, vaut mieux payer le 1 million ou l'X million qui est donné parce que c'est une des choses qui sont très critiques. Je pense que chez Apple, c'est tous les bugs kernel, entre autres, sont tous payés à relativement à cette hauteur-là parce que justement, c'est un bug kernel, genre c'est fini, c'est game over.
Exactement, le dernier exploit que j'ai vu passer pour iPhone, je pense que c'était 1,5 million, puis c'était même pas au niveau kernel. Là. Donc, ça donne une idée. La seconde, que c'est un remote execution, ouais. Un remote exploit, c'est game over. Là.
Oui, c'est ça. Fait que, c'est tout un marché qui s'alimente de façon directe et indirecte dans toutes ces notions de graphes. Moi, j'ai fait un bon tour de ce que j'avais à dire sur les graphes et sur les listes.
Je pense qu'il ne reste plus de sable dans l'engrenage. On a assez vidé de liquide par-dessus puis on a assez fait flotter ça dans le savon. Là. On devrait être bon jusqu'à pour le prochain podcast, comme on dit.
C'est excellent. Hey, je te remercie beaucoup.
Ça fait plaisir. À bientôt.
Bientôt.